Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Francky Zapata. Bonjour Francky.
Bonjour.
Alors, tu es champion du monde de jet ski. Tu es l'inventeur de beaucoup de machines, dont le flyboard dont on va parler, et bientôt de l'hélicoptère écolo en solo. Tu es toi-même un ovni, je pense qu'on peut le dire. Tu incarnes l'alliance audacieuse entre technologie, ambition, aventure, et tu ne cesses de repousser les limites de l'impossible. Tu es un Icare des temps modernes, mais pas un casse-cou non plus. Toutes les prises de risque sont contrôlées. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va aller explorer tes apprentissages et tes émotions sur tout ton parcours, parce que voilà, tu fais des choses exceptionnelles, mais tu réfléchis énormément avant, et quand tu les fais, eh bien tu restes un être humain avec ses émotions et toutes ces décisions à prendre, y compris parfois en last minute, en dernière minute. Et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca, qui viendra ici sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1978 à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance ?
Mon enfance, disons qu'elle a été assez normale. J'ai eu une enfance assez privilégiée. Mon père était entrepreneur dans le bâtiment. Donc voilà, j'ai manqué de rien. Mes premières motos, les voyages un petit peu de partout, le ski. Donc voilà, j'ai eu une enfance assez normale.
Sportive quand même.
Sportive. Pas très doux à l'école, mais voilà. Sinon, à part ça, c'était une belle enfance.
Bon, alors justement, l'école, ça ne dure pas très longtemps.
Non. Aussi, oui, c'est un peu résumé, c'est ça. En fait, la réalité, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps. Je n'étais pas vraiment à ma place. Et puis j'étais en difficulté, quoi, pour être honnête. Donc, en plus, ça ne me plaisait pas trop. Donc,
C'est ça, c'est parce que tu n'étais pas motivé, tu ne voyais pas à quoi ça servait, en fait.
Disons que déjà, je suis dyslexique. Donc, à l'époque, il n'y avait pas forcément de dépistage. Donc, j'avais toujours des notes négatives en dictée. Donc, c'était plutôt moins 15, moins 20, j'avais jamais zéro. Et donc, voilà, puis les profs, ils prenaient pas vraiment le temps de s'occuper de personnes un peu bizarres, quoi, comme moi. Donc, voilà, ça me déplaisait. Et puis, en même temps, rester assis sur une chaise, c'est pas trop ma tasse de thé non plus.
Ouais, c'est ça. T'es quand même un hyperactif, il fallait que ça bouge. Alors, donc, tu quittes l'école à 16 ans, et puis tu poses la main sur un jet ski, et ce jet ski va t'emporter très, 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 très loin. Rebecca.
Vous étiez influencé par votre père qui était entrepreneur dans les travaux publics. Vous commencez donc le jet ski, vous excellez très rapidement jusqu'à devenir champion de France, champion d'Europe, puis champion du monde. À 22 ans, vous rencontrez Christelle, joueuse de tennis, une rencontre importante pour vous puisqu'ensemble vous lancez votre propre marque de jet ski. Mais là, vous aspirez à plus, vous avez envie de voler et c'est là, en 2011, que naît le premier flyboard, cette planche propulsée par un tuyau relié à une turbine de jet ski. Une innovation qui vous vaudra un succès très médiatisé. Mais encore une fois, vous ne vous êtes pas arrêté là. Grâce notamment au film Retour vers le futur, vous avez conçu un modèle équipé de 5 mini-réacteurs capables de voler et plusieurs prototypes et un accident qui vous a coûté 2 phalanges. Cette invention, le premier flyboard, a pris son envol. Le 25 juillet 2019, vous tentez de traverser la Manche sur ce flyboard Air, un peu en référence à la première traversée aérienne de cette mer par Louis Blériot 110 ans auparavant. La traversée échoue à cause d'un ravitaillement mal effectué. 10 jours plus tard, vous retentez l'aventure, partant cette fois de Sangatte en France. Et cette fois, le ravitaillement en carburant se passe comme prévu. Et après avoir parcouru 35 km en 22 minutes, vous atterrissez à Saint-Margaret's Bay au Royaume-Uni, entre 160 et 170 km/h de vitesse de croisière, une altitude de 15 à 20 mètres avec une pointe à 70 mètres, une réussite qui marque la première traversée de la Manche avec votre invention, le Flyboard Air. Et depuis, vous n'avez cessé d'inventer de nouveaux engins volants. Et le dernier est donc le Air Scooter dont nous parlerons tout à l'heure.
Alors, tout cela, en commençant, c'est résumé en très peu de temps. Mais
très bien résumé.
Merci Rebecca, mais on voit la densité de ce que tu as fait. En fait, tu t'es pas arrêté. Alors, entre 1995 et 2007, déjà, en jet ski, tu rafles toutes les médailles qui existent, hein, France, Europe, monde, voilà. Pourquoi tu crois que c'est arrivé ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à te hisser tout en haut? Tu avais des capacités physiques hors normes ou tu avais une motivation hors normes ou une passion?
Une passion, je pense que le plus important, c'est la passion. Et puis après, je pense qu'on est tous faits, un humain, à plus ou moins 10%. On est tous constitués à peu près avec de la même façon et toutes les mêmes chances. Je pense que le vrai talent, c'est juste vouloir les choses plus que les autres. Et quand tu fais une compétition, en fait, il faut vraiment le vouloir beaucoup plus que les autres, parce qu'en fait, si t'es que bon, ça fonctionne pas. Tu dois être le meilleur pour gagner. Et ça, je pense que moi, ce qui m'a emmené jusque-là, et surtout de tenir, c'est que j'ai compris très rapidement que gagner, c'était vraiment que la cerise sur le gâteau. Et qu'avant tout, il fallait aimer le parcours. Et je pense que c'est pareil dans la vie et pareil dans les affaires.
Le travail qui est avant aussi, Vincent.
Il faut aimer le travail. En fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de forcer parce que j'ai toujours aimé le travail. J'aime m'entraîner physiquement, j'aime dépasser les limites, j'aime travailler sur la mécanique. À l'époque, c'était jet ski.
Les gens qui travaillent avec toi se rendent compte à quel point tu travailles. C'est quoi tes horaires à peu près travail, que ce soit physique ou intellectuel, pratique?
Les horaires, en fait, j'ai des horaires, on va dire, de à peu près normal, parce que donc je viens travailler le matin vers entre 8h et 9h, et je repars le soir entre 18 et 19h, mais en fait, c'est un travail continuel, quoi. En fait, j'ai toujours mon bloc-notes, un stylo, et j'ai
ça,
plein
d'idées. Quand tu pars à 19h, tu continues à travailler un petit peu quand même.
Ah oui, en fait, c'est non-stop. En fait, c'est même pas un fardeau, c'est vraiment une passion, quoi. C'est-à-dire que même si je regarde la télé, j'ai toujours une partie de ma tête qui a envie de penser à mes rêves en même temps. Donc c'est très difficile à définir, quoi. Ma vie, elle est fusionnée avec ça, quoi, en fait.
Alors, on peut se dire que du coup, tu es arrivé en haut de la pyramide jet ski. Et là, tu imagines un flyboard à eau. Comment te vient l'idée et pourquoi?
En fait, c'est la plus grande question pour moi. C'est comment en fait j'ai eu cette idée de mettre des jets d'eau sous le pied. Parce qu'en fait, après tout ce qui a découlé, c'était plus ou moins, on va dire, la suite logique. Mais je faisais des essais en fait avec mon jet ski. On développait les moteurs et les heures de banc d'essai, c'est très très cher. Donc du coup, on essayait de trouver un moyen de pas non plus aller à 140 à l'heure sur l'eau avec un ordinateur portable pour régler le moteur. Et j'ai essayé de trouver une solution pour garder le jet sur la remorque sans que ça pousse des tonnes, parce que ça a à peu près une tonne 2, une tonne 3 de poussée, une turbine de jet ski. Et donc du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser un tuyau type pompier pour utiliser ce qu'on appelle la perte de charge et perdre énormément d'énergie par le frottement de l'eau dans le tuyau. Et j'ai fait quelques calculs, mais ça allait pas non plus parce que j'avais tellement encore de poussée qu'on n'arrivait pas à maintenir le tuyau attaché même à un poteau. Et du coup, bon, le test ne marchait pas, mais le soir, en rentrant chez moi, je commence à réfléchir. Je me suis dit, mais la poussée qu'il y a au bout du tuyau, si je fais un système sous les pieds, je pourrais voler. Et tous mes amis m'ont pris pour un fou. Et puis bon, quand j'ai fait le premier essai, ça n'a pas marché. Et comme c'est mes amis depuis ma tendre enfance, et du coup, qui ne se gênent pas de se foutre de moi, donc là, si j'arrive pas à le faire marcher, j'en ai pour 10 ans. Ils vont se moquer de moi pendant 10 ans et voilà, poussé par la passion et tout ça, ben, ça a marché au bout d'un moment, quoi.
Bon, et t'étais le seul à vouloir monter dessus?
Ah non, le flyboard à eau, à partir de
à partir du moment où t'as montré que ça marchait.
Ah ouais, tous les potes ont voulu en faire, tout le monde est monté dessus et ça a été vraiment une aventure entre amis, quoi. C'est ça qui était génial.
Et alors après l'eau, tu passes à l'air. Voilà, tu décides d'inventer des machines aériennes tout simplement. Et donc, celle pour laquelle on te connaît aujourd'hui, c'est principalement ton Flyboard Air, hein, puisque tu as traversé la Manche avec. Tu as déjà volé plus de 1000 heures avec. Quels sont tes meilleurs souvenirs?
Les meilleurs souvenirs, je pense que déjà, c'est certainement voilà, la Manche. C'est mon meilleur souvenir avec cette machine parce que c'était vraiment un exploit pour moi physique. Pas que le moment, après le 14 juillet, c'était génial.
Mais oui, on t'a vu au 14 juillet.
C'est l'histoire, c'est complètement improbable.
Ça
fait partie des aventures d'une vie où je ne le mettrais pas dans la catégorie flyboarder, je le mettrais dans la catégorie des trucs de dingue qui m'arrivent dans ma vie. Mais par contre, la Manche, oui, c'était très très dur. J'avais très peu de chance d'y arriver. Et ça m'a rappelé vraiment ma jeunesse avec le jet ski où tu pars et tu pars pour partir, mais tu ne sais pas si tu vas arriver. Et ça, c'est quand même ce que j'aime aussi dans la vie. Et donc, oui, c'est mon meilleur souvenir.
Alors, on a tous grandi avec des films de science-fiction. et notamment Retour vers le futur. Hein, on a tous vu Marty McFly
c'est ça.
Sur son hoverboard. C'est quoi, du coup, ta vision à toi du futur de la mobilité ?
Alors, le futur de la mobilité, pour moi, c'est quelque chose qui a évolué, pour être honnête, au cours des 10 dernières années, ou même, je dirais, même des 6 dernières années. Au début, je voyais ça, on va dire, le fantasme, finalement, de la nouvelle mobilité, ce qu'on a essayé d'accomplir avec le Air Scooter. C'est-à-dire, tu démarres de ton jardin et tu vas voir ton pote dans son jardin. Et c'est de là qu'est né le Air Scooter. Mais tout le monde peut le comprendre, ça va être vraiment une mini-mobilité, ça va être une mobilité pour le loisir. Les gens pourront aller voir leurs voisins, mais on ne pourra jamais non plus se poser pour acheter le pain ou pour aller travailler, ou là, BFM dans la rue. Donc ça, c'était la mobilité que moi je rêvais, que tout le monde fantasme. La vraie mobilité de demain, celle qui va pouvoir réellement changer et désengorger les routes, moi j'imagine ça plutôt comme un transport plutôt en commun, parce qu'on ne peut pas mettre non plus lever des voitures au sol pour mettre des millions d'engins volants dans les airs. Donc ça va être un long chemin sur une machine d'assez grosse dimension où le premier problème à résoudre sera le bruit, parce qu'il va falloir que ça soit assez silencieux, et quand on souffle beaucoup d'air, électrique ou pas, ça fait du bruit. Et en même temps, que les gens acceptent de voir ces machines au-dessus d'eux. Donc, il va falloir prouver que c'est fiable et que ça ne pose pas de problème de sécurité. Et d'un autre côté, quand tu commences à parler de transport de masse, il faut parler aussi écologie. Il faut que ce soit des machines qui apportent quelque chose et qui, du coup, soient beaucoup moins énergivores que ce que le serait un véhicule traditionnel.
Alors, c'est le moment pour nous d'aller explorer tes passions. Alors, ton monde à toi, c'est celui de l'invention, de la vitesse, de la performance. Tu as battu des records incroyables, tu as dépassé des limites qu'on pensait infranchissables. Et ces records viennent justement avec leur lot de risques. Rebecca.
Le 28 mai 2022, lors du Rassemblement international d'hydravion de Biscarrosse, vous devez effectuer une démonstration du Flyboard Air numéro 3. Et suite à une erreur de manipulation lors du démarrage et une erreur de communication avec la tour, vous décollez sans que les contrôleurs de vol soient en fonction. Et là, à 15 mètres de haut, vous perdez le contrôle de votre engin et vous devez décider d'un endroit où atterrir en urgence. Vous vous dirigez au-dessus d'un lac, puis vous coupez la poussée et tombez. Une chute qui vous a fait perdre connaissance pendant 5 à 6 minutes. Et puis, vous vous êtes blessé grave.
Alors, c'est une chute qui aurait pu te coûter la vie. T'as l'impression, justement, de prendre des risques. Comment tu calcules ? Comment vous faites pour que, justement, on minimise ce genre d'occasion ? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là, techniquement ?
En fait, tout ça c'est, disons que tout est bien calculé. Alors, quand on développe des nouvelles machines, en fait, on fait très attention à ce qu'on fait, parce que c'est très... La moindre changement de code, de ligne de code, ça peut avoir un effet qui est dramatique. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est une erreur, en fait, de décision qui a été prise quelques mois auparavant. En fait, c'est assez technique, mais disons qu'on développe, on a créé notre propre contrôleur de vol, donc c'est un système qui est redondant avec 3 contrôleurs. Mais disons qu'il y avait deux axes de travail. Le premier, c'était en fait de créer un seul contrôleur de vol, avec une seule branche et des configurations selon les machines qu'on utilisait, donc Flyboard Air, Jet Tracer, Air Scooter. Et l'autre idée, c'était de faire plusieurs branches, des branches figées. Et on a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on a fait une seule branche avec des configurations et une ligne de code qu'on a modifiée en fait sur le flight control pour la sécurité. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est
pour une autre machine.
Pour le Jet Tracer, c'était une ligne de code pour pas que les contrôleurs de vol s'arment si toutes les conditions n'étaient pas remplies, parce que c'est le contrôleur de vol qui assure la poussée sur le Jet Tracer et sur le Air Scooter. Donc tant qu'il n'est pas armé, il est collé au sol. Et comme le Flyboard Air, en fait, c'est moi qui appuie sur ma gâchette qui génère de la poussée, le contrôleur de vol, lui, juste, il me stabilise. Et en fait, on croyait avoir enlevé toutes les fonctions, toutes les cases qui empêchaient l'armement. Et une case qu'on avait oubliée et qui n'est arrivée qu'au bout d'une centaine de vols par une accumulation de facteurs. Et voilà, donc c'est le genre d'erreur où je pense que là, c'était... plutôt qu'on avait trop pris confiance, enfin, on va dire, à la machine au bout de milliers d'heures de vol. Et
c'est honnêtement une erreur technique.
Une erreur technique, et je ne pensais pas avoir une deuxième chance. Donc là, ça prend conscience que ça te refait une piqûre de rappel que ce n'est pas un skateboard, quoi.
Bon, pour quelqu'un qui est parti de l'école à 16 ans, t'es quand même sacrément technique, hein. C'est-à-dire que tu connais à peu près tous les composants électroniques de ta machine et,
ah oui, ça,
et puis t'es devenu un pro de mécanique des fluides. Mais alors, comment tu gères tes émotions quand justement tu décolles, que ça se passe pas comme prévu, que en plus là, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais pas te poser immédiatement. C'est-à-dire que tu as été obligé d'aller plus loin. Alors pourquoi tu ne pouvais pas te poser immédiatement?
Parce qu'il y avait du sable, en fait, et en fait, il y avait des enfants juste à côté. Et je me suis dit, si je me pose là immédiatement dans le sable, les gens vont se prendre des grains de sable dans les yeux à Mach 2. Et j'ai vu l'eau pas loin, et j'ai eu du mal à estimer la distance. Et
pas loin,
et en fait, c'était, je pense, une quarantaine, cinquantaine de mètres, quoi, en fait. Mais
donc,
en y allant,
j'allais aller dans l'eau un peu
plus loin. Je vais aller dans l'eau comme ça, mais je ne savais pas la profondeur. Et en fait, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait qu'un mètre d'eau. Et je suis tombé d'une bonne vingtaine de mètres. Donc, puis j'étais en train de perdre connaissance en l'air. Je tournais trop vite sur moi-même et j'étais vraiment désorienté. Quoi, donc,
t'as quand même gardé ton calme parce que...
Oui, après, je suis habitué à ça. Disons que je suis quelqu'un qui met tout en place en fait, pour prendre le moins de risques possible. Ça, je ne suis pas un casse-cou, mais je suis très fataliste. Quoi. Je sais que je me connais dans ces situations-là. Et je prends vraiment les choses vraiment froidement et je me dis, bon, mais il faut tenter la chance. Et puis, si ça passe pas, ça passe pas, quoi. Donc, j'ai pas vraiment cette sensation vraiment de peur, panique. C'est quelque chose que j'arrive à vraiment mettre de côté. J'ai souvent peur avant et après. C'est pour être honnête, surtout après. Quand tu sors de là et que tu te dis, mais enfin, ça s'est joué à ça. Je suis passé vraiment à ras et j'ai vraiment pris la millième de décision qu'il fallait pile poil au bon moment, sinon c'était le drame. Et t'as peur après de te dire, est-ce que. Comment j'ai fait pour prendre cette bonne décision pile poil à la seconde. Mais sur l'instant, du peu que je me rappelle, quoi, j'arrive à être assez froid quoi, dans cette réaction.
Bon, alors clairement, dans tous les cas, tu fais quand même des choses que personne d'autre ne fait. Tu as un quotidien incroyable et des réussites, évidemment, d'inventeurs incroyables aussi. Comment est-ce que, même si on te voit souvent dans les airs, comment est-ce que tu gardes les pieds sur terre? Est-ce que, je ne sais pas, ton entourage t'aide? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que Francky, dans la vie de tous les jours, il plane ou est-ce qu'il est avec tout le monde?
Non, mais en fait, j'ai une vie très simple. En fait, dès que je pars du boulot, je vais au CrossFit voir mes potes faire du sport. J'arrive souvent en retard. Donc, certains vont y avoir dans l'émission, ils se moqueront de moi. J'arrive en courant, je me change, arriver là-bas vite fait. Donc, j'ai une vie simple entre le sport, ma famille. Mes amis, j'ai mes amis depuis à la fois le peu que j'ai fait de temps à l'école, mes 4 ans, et des amis du jet. J'ai cette espèce, c'est une famille. Maintenant, moi, j'ai un demi-frère, mais bon, on a beaucoup de différences d'âge. Mais en gros, c'est ma famille, quoi. C'est comme des frères, en fait. Et on a grandi ensemble. Et j'ai jamais eu, je pense, cette idée de d'être hors sol et de me prendre pour un autre. Mais je pense que si je l'avais fait, il m'aurait ramené sur terre. Puis il se moque constamment de moi. Donc du coup, ça te donne une autre vision de la situation. Et j'aime cette vie, quoi. J'aime ce côté assez simple.
Alors on parle de réussir sa vie, on parle de famille, on parle de valeurs, des gens qui t'entourent. Et justement, on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais bien. Très très bien même. Christelle Zapata a une question pour toi.
Coucou Francky, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Avec les 10 dernières années que tu viens de passer, qui ont été assez riches, je voulais savoir où tu te voyais dans 10 ans, ainsi que ta société.
C'est une question intéressée. Hein.
Oui, alors, où je vois ma société dans 10 ans, déjà si je le prends à l'envers. Ou même si je prends où je me vois moi dans 10 ans dans la même situation que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire ce que j'aime, être entouré de ma famille, de mes amis. Donc c'est ça, je ferai aucun compromis. Je me vois aussi dans les airs en train de voler. Ça, c'est quelque chose que fait partie aujourd'hui de moi et que je pourrais pas m'empêcher de faire. Et après ma société, ben moi je suis un rêveur passionné, je veux atteindre le sommet de la pyramide. Donc je vois ma boîte au Nasdaq à côté de Tesla, quoi. Donc voilà ce que où je me vois dans 10 ans. Je pense j'espère que dans 10 ans, on aura résolu tous nos problèmes, qu'on aura résolu le problème de la mobilité et qu'on comptera dans ce nouveau monde, quoi.
Merci beaucoup de nous avoir partagé tes passions. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante. C'est la séquence actu du tête-à-tête des pionniers. Et pour toi, Francky, l'actu est sacrément chargée. Rebecca.
La machine volante la plus avancée du monde. C'est comme cela que vous définissez votre dernier prototype, le Air Scooter, un véhicule révolutionnaire qui combine la technologie du Flyboard Air avec des fonctionnalités de scooter volant. Il a été présenté lors d'un événement spectaculaire et a captivé le public par sa conception futuriste. Il est doté de 4 turbines, garantit une stabilité et une maniabilité ultra précise. L'objectif, tout simplement, s'élever dans les airs, voler et même à des vitesses élevées en redéfinissant cette notion du transport personnel, le tout alimenté par des moteurs électriques, donc s'inscrivant dans la mobilité durable. Avant d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de déplacement, certaines questions de régulation sont encore en attente de réponses, mais en tout cas, vous continuez à repousser les frontières de l'innovation, laissant présager un avenir où les airs seront accessibles à chacun.
C'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Et en plus, il consomme pas beaucoup cet air scooter. C'est-à-dire que
c'est ça. En fait, on est allé, comme je dis, pas à pas. Depuis, c'était une continuité logique en fait par rapport au flyboard à eau. On a fait le flyboard air. Après, on a fait le jet tracer pour essayer de partager ça avec le maximum de personnes. C'est ça qu'on a mis au point nos contrôleurs de vol. Mais le jet tracer, malheureusement, c'était un engin à turbo réacteur qui consommait beaucoup d'énergie. Et immédiatement, on s'est dit, on est à contre-courant de là où l'humanité veut aller. Donc, il faut être aujourd'hui éco-responsable. Et donc, on a créé ce Air Scooter. On était quand même en développement en parallèle. Et aujourd'hui, sur un vol de 20 minutes, on consomme moins de carburant sur 20 minutes que ce qu'on en a dépensé pour le GS3, ne serait-ce que pour démarrer les réacteurs. Donc, on a quasiment 65 à 70, c'était 10 fois moins de consommation de carburant.
Le Air Scooter consomme Air Scooter 65 à 70 fois moins que la version d'avant.
Que la version Jet Tracer. Donc, on est aux alentours. Si on traçait une ligne droite pour aller travailler avec, si on le faisait, on serait sur vraiment une très bonne voiture, sur du 5 litres au 100. Quoi.
Merci beaucoup. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizzella. Alors, le Quizzella, c'est quoi ? C'est une série de questions que je te pose très rapidement et auxquelles tu dois répondre aussi rapidement.
D'accord, ok.
C'est
super,
parti.
Super.
J'ai un peu peur de tester mes réflexes avec toi. Mais bon, on y va. En un mot, ta sensation quand tu voles ?
Un oiseau extraordinaire. Voilà. C'est pas trop d'explications plus que ça.
Plutôt jet ski, flyboard ou air scooter ?
Air scooter.
Ton sport extrême préféré ?
Le jet ski.
Ton activité pour te détendre ?
Le sport.
La qualité que tu préfères chez tes collaborateurs ?
Passionné.
Ce qui te donne le sourire à coup sûr ?
Les défis, les exploits et voilà.
Ton inspiration, c'est plutôt Thomas Moore, l'inventeur du jetpack, ou plutôt Marty McFly et son hoverboard ?
Alors là, Marty McFly de tout début et Thomas Moore pour la continuité.
Ta potion magique à toi ?
Le Fitted. C'est une boisson pour récupérer après le sport.
D'accord. Très bien. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit ?
Ce qui m'affaiblit ?
T'as pas forcément quelque chose qui se mange ou qui se boit. Hein.
Ouais, c'est. Non, vraiment, si c'est quelqu'un de très très proche de moi qui me fait quelque chose à l'envers. Mais voilà, vraiment quelqu'un qui est très 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 proche, il faudrait
si
que ça.
Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu penses que tu aurais fait quoi ?
C'est la bonne question, je sais pas, mais.
T'aurais trouvé un moyen de voler.
Hein, je pense que la vie te ramène toujours vers tes passions, donc je serais peut-être dans une situation différente, dans un autre monde, mais toujours à la recherche des mêmes sensations. Quoi.
Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui ?
Mon plus grand rêve, c'est mon rêve numéro un, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est rester dans la même situation que ce que je suis aujourd'hui, me lever le matin, être heureux d'aller travailler, me languir le dimanche soir, le lundi matin d'aller bosser et d'être avec mon équipe, de passionner, voilà. Après, aller le plus haut possible si on peut, mais avant tout, j'aimerais être dans la même situation, quoi, dans 10, 20 ans, 30 ans, garder cet émerveillement sur toutes les choses technologiques qu'on développe. Voilà, c'est garder ce regard d'enfant, c'est vraiment ce que je souhaiterais. Je souhaite finir ma vie comme ça. Quoi.
Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains regardaient aujourd'hui les pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, qu'est-ce que ça. Tu voudrais leur dire ?
Ben, croyez en vos rêves. Quoi. Et prenez quand même toujours un plan de secours. Parce que voilà, je veux dire, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie. Quoi. Donc voilà. Donc, moi, j'ai foncé tout droit avec zéro plan B. Mais je suis un peu fou en même temps, donc c'est pas un conseil que je donnerais. Quoi. Je donnerais un conseil de croire vraiment en ses rêves, mais backupé quand même, quoi. La redondance, c'est quand même important.
Et justement, tu as choisi une chanson pour terminer cette émission. On écoute la chanson que tu as choisie. De Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Je pense que ça te va bien.
Ah, ça me va bien.
Ça va bien à ton aventure, ça va bien à ta vie. Merci beaucoup, Francky.
Merci à toi. Merci
pour m'inviter. C'était un plaisir d'explorer tout ton univers, tout ton monde, dans les airs, dans l'eau, partout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Que tout continue comme ça, voilà.
Exactement. On te souhaite le meilleur dans les airs et dans l'eau et partout. Merci beaucoup, Francky.
Merci. Merci à toi.